gagner sa vie sans rien branler à la seule force du...
Et bonsoir à tous et à tous ce soir pour un voyage astronomique avec la causerie sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu, c'est le direct qui reprend avec la causerie ce soir. Alors, une causerie astronomique, vous vous en doutez bien, ça a été annoncé bien avant cette musique. Et bien ce soir dans les studios, on a Georges.
Bonsoir.
Bonjour, ravi de te retrouver.
Et moi également.
Dans la causerie. On a aussi Fab.
Salut.
À la technique, nous avons Clara.
Bonsoir.
Mais pas que. Mais tu dis bonsoir quand même.
Bonsoir.
Élodie. Nous avons aussi MK.
Bonsoir, bonsoir.
Et Jean-Yves qui a fait l'ouverture brillamment.
Non, faut pas en faire d'autres non plus. Eh bien, alors, avant de commencer cette 11e causerie astronomique, c'est juste énorme, eh bien, on va quand même vous donner les infos pour nous contacter, pour aller sur le blog de la causerie. Donc déjà, pour nous contacter par mail, ça se passe...
lacauseriecanu@gmail.com en minuscule.
Et pour retrouver tous les podcasts, si justement vous voulez écouter toutes les émissions astronomiques qu'on a fait en compagnie de Georges, mais aussi toutes les autres causeries, ça se passe sur le blog, et le blog c'est à l'adresse
blogs.radiocanu.org/lacauserie, ou vous tapez radiocanu.org et vous cherchez les blogs des émissions. Et on est dedans.
C'est ça.
Et la causerie, parce que si vous voulez les causeries astronomiques, ça se passe à la causerie.
Oui. Et on a aussi un espace sur un des réseaux dits social.
Donc commercial, celui de Mark Zuckerberg.
C'est ça. On est formidable, on donne même les noms des patrons. Comme à notre habitude, lorsqu'on reçoit Georges, on commence toujours par, les saisons.
Oui, mais c'est devenu un rituel.
C'est vrai.
Ouais, sauf que là, t'es vachement à la bourre. Parce que je tiens à vous dire, auditeurs et auditrices, que Georges est à la bourre pour sa causerie astronomique de cette fois-ci. Et donc, on devrait normalement être au début de l'hiver.
Oh, on est encore au début de l'hiver. On est encore au début de l'hiver.
On s'arrange.
Oui, on est en hiver depuis le 21 décembre, depuis le solstice. Bon, c'est pas
ça
si
va.
Vieux.
Ça va.
C'est pas si vieux. En ce mois de janvier, on est au plus près du soleil, j'ai envie de le rappeler. Malgré l'hiver, on est au plus près du soleil, donc c'est toujours pas ça la raison des saisons. En fait, l'axe de la Terre est incliné. Et en ce mois de janvier, c'est l'hémisphère sud qui est orienté vers le soleil, qui bascule vers le soleil. C'est l'été chez eux, c'est l'hiver chez nous. Au mois de juin, ça sera à notre tour. Ce sera nous qui vont basculer vers le soleil. Ça sera l'été chez nous et l'hiver chez eux. Chacun son tour.
Oui. Voilà.
Vous voyez, il fallait ajouter un truc là.
Non.
Ah bon, pardon.
Non,
c'est
C'était très clair.
C'était très clair.
Et vous retrouvez le schéma sur le blog de l'émission, comme toutes les causeries astronomiques.
C'est ça. Parce que des fois, il faut un petit peu d'images pour accompagner les mots de Georges, etc. Pour ceux qui, comme moi, pourraient des fois avoir un peu de mal sans les images, c'est des explications en plus. Et si t'as fini le tour des saisons, on va quand même donner un peu le thème de l'émission de ce soir, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on reçoit Georges, il y a toujours une thématique aux émissions astronomiques. Et ce soir, tu voulais nous parler de l'exovie.
L'exovie, waouh, joli terme.
Ouais.
De la vie dans l'univers.
Ben là déjà tu vois ça fait bizarre ce qu'on se dit, donc il y a de la vie ailleurs.
Mais Georges, c'est presque certain.
Alors ouais, mais ok, mais c'est quoi la vie?
Oui, définissons d'abord ce qu'est la vie. Hein, la vie, c'est une complexification de la matière, sans cesse. C'est une des propriétés de la matière. Cette matière, au départ, ce sont des briques du vivant. Et en s'associant, la matière se complexifie et acquiert de nouvelles propriétés sans cesse de plus en plus importantes. Ces complexifications se font autour de l'atome carbone. Ce carbone donc a la capacité de se lier à énormément d'éléments, de substances. Et au fil des complexifications, naissent les acides aminés, qui sont les premières briques du vivant, de la vie. De ces acides aminés naissent les nucléotides, l'ADN, l'ARN, qui est la première molécule capable de se répliquer. Voilà, et ça c'est le vivant. Pour simplifier, bien entendu, c'est beaucoup plus complexe que ça. On ne fait pas une émission d'exobiologie.
En même temps, t'es pas biologiste, donc t'attends plutôt bien.
En même temps, déjà là, j'ai un peu du mal, alors si tu devais encore complexifier, ce serait catastrophique pour moi.
Mais tu parles de matière, alors... Moi, c'est intéressant ce que tu dis, c'est la matière qui se complexifie. Mais d'où ça sort tout ça? Parce que c'est bienvenu de quelque part, cette matière qui se complexifie.
Nous y voilà. Et oui, cette matière est présente dans l'espace. Et en fait, ces atomes de carbone, ils naissent au cœur des étoiles. Ce sont les étoiles qui fabriquent les éléments dont on est fabriqué.
On vient de l'espace, en fait, c'est ça?
Nous sommes les enfants des étoiles.
Oh. C'est beau dit comme ça, non?
Okay. Voilà. Au départ, à la formation de l'univers, on n'a que de l'hydrogène. C'est vraiment au corps des étoiles que sont fabriqués tous les autres éléments.
Ce que tu as expliqué dans les émissions précédentes, donc on vous invite à les réécouter.
Absolument. Il faut aussi des objets célestes pour fixer la vie. Comme ça, on n'imagine pas trouver la vie dans l'espace, comme ça, sans aucun support.
Avant qu'on parle des supports, je voulais juste qu'on aille au bout. C'est-à-dire que là, les gens, on est allé jusqu'à l'ADN. Donc, automatiquement, ADN veut dire ensuite l'étape d'après, c'est la bactérie. Et ainsi de suite. Et puis après, c'est nous.
Les protéines, les bactéries. Voilà. Et puis les différents organismes. Et puis nous.
Et puis plus ça se complexifie, plus au final, on arrive à nouer ça.
Il a fallu du temps. Il a fallu 4 milliards d'années à la Terre.
Voilà. Non, mais c'était pour que les gens comprennent quand on parle de vie que ça va de la bactérie à beaucoup plus gros, quoi. Voilà. Et donc, oui, les corps célestes pour fixer tout ça.
Voilà. Alors, voyons ce qui se passe dans le système solaire, pour commencer. Le système solaire, c'est 8 planètes principales. On ne va pas les reciter, vous regardez une émission précédente, vous écoutez une émission précédente. Et puis, ces planètes ont différents satellites, sauf Vénus et Mercure, qui n'ont pas de satellites. Toutes les autres en ont. La Terre en a un, la Lune, Jupiter en a 69, et au total, on a près de 80 satellites dans le système solaire.
Donc ça veut dire, pour être clair, que sur ces satellites, potentiellement, pourrait aussi se trouver la vie, pas
oui,
que sur les planètes.
D'autant plus que certains ont une taille tout à fait respectable. Le plus grand d'entre eux, c'est Ganymède. C'est un satellite de Jupiter. Il fait 5200 km de diamètre. Il est pratiquement aussi gros que la planète Mercure. De taille suffisante pour abriter la vie, si les conditions le permettraient. Alors, il y a également 5 planètes naines, dont Cérès est le plus gros, 1000 km quand même. Il y a 26 astéroïdes qui font plus de 200 km. Au total, il y a 554 000 corps répertoriés dans le système solaire. 544 000 corps. Ouf. Tout ça pour une étoile. Une étoile. Une seule.
Donc ça, c'est tout ce qui tourne autour du Soleil, qui potentiellement est suffisamment gros
pour fixer la vie.
Voilà. Juste autour du Soleil.
Bien entendu, ça ne suffit pas. Bien entendu. Dans notre galaxie, par exemple, 200 milliards d'étoiles, là, ben, ça fait plus de 4000 milliards d'objets, si on extrapole. Il y a des possibilités, hein, pour la vie. Je parle même pas du reste de l'univers. Ça devient ahurissant.
Ah, si, donne ton chiffre.
Oui, ce que j'allais dire, donne-le quand même, ce chiffre.
C'est une estimation, hein, de 200 milliards de galaxies. Donc 800 000 milliards de corps célestes dans l'univers.
Ah oui, quand
800
même.
000 milliards de milliards.
Ça fait beaucoup de possibilités, en fait, de... d'endroits, enfin je sais pas comment dire, d'endroits où les choses pourraient se fixer et
oui, comment imaginer que la vie n'a pu naître que sur la planète Terre, vu la multitude de possibilités, c'est tout simplement impensable.
C'est-à-dire qu'en fait, oui, ça fait 800 000 milliards de probabilités, de possibilités. C'est, même pour l'esprit humain, c'est impossible de toucher, d'imaginer ce que ça représente, mais c'est juste énorme. C'est-à-dire que, et du coup, on peut que se dire que la Terre, ce qui s'y passe, le fait que la vie soit ici, n'est pas une exception. Parce que 1 sur 800 000 milliards de milliards, statistiquement, vous savez bien que c'est pas, ça va être beaucoup plus que ça. Voilà.
Il est totalement impossible que la Terre soit une exception. Vous êtes d'accord avec moi ?
Ah bah oui. Enfin, à part MK qui lui dit non, pas du tout.
Non mais je suis encore dans les 800 000 milliards,
C'est impossible, encore, c'est impossible de se représenter
de
ça.
Tel
en fait.
Chiffre, ne parle plus.
C'est autant de grains de sable qu'il y a sur cette planète finalement.
Non, redevenons raisonnables.
Essayons.
Hein, parce que dans le système solaire, à sa formation, deux planètes seulement étaient à la bonne place. Deux. Pas plus. La quatrième, Mars, et puis la troisième, la Terre, vous la connaissez.
Alors quand tu parles de bonne place, ça veut dire quoi ?
Pas trop près du Soleil. Il faut que l'eau reste liquide, sinon trop près du Soleil, trop chaud, elle s'évapore. Pas trop loin du Soleil, sinon l'eau gèle. Donc vous le comprenez, pour que la vie naisse, il faut un liquide. Alors l'eau est le meilleur d'entre eux. C'est pas une obligation absolue. Certains liquides pourraient faire l'affaire.
D'ailleurs, on en parlait pendant la prépa, on a découvert dans certains hydrocarbures des virus, par exemple. Qui est une forme de vie. Et donc, ça prouve que même dans des hydrocarbures, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas d'eau, c'est organique, il peut avoir un développement d'une forme de vie.
Donc, l'éloignement pour la température. Hein. Je rappelle que sur Mercure, il fait 400 degrés, on est trop près du Soleil. Sur Uranus, il fait moins 200 degrés. On est trop loin.
Et moi, je te propose qu'on fasse une petite pause pour laisser les gens digérer tout ça, se dire qu'il va falloir aller chercher un verre d'eau pendant le temps d'une petite pause musicale. Ça te va, Georges ?
Ça me va, tout à fait.
Eh ben, allez. Allez, tu ranges tes boules à facettes et tes pantalons pas de def et tu es de retour dans la causerie astronomique. Et donc c'était Astroport de Milk Ways, voilà un groupe d'électro-disco planant des années 70. Et donc on est avec toi Georges pour parler de la vie en dehors de la Terre et partout dans le monde, de l'univers, absolument. tout ça. Et donc tu parlais de, juste avant des conditions pour que la vie apparaisse. Alors la première des conditions c'est de trouver un corps céleste qui est à peu près bien placé vis-à-vis par rapport à son étoile, où il fait pas trop chaud, pas trop froid. C'était le cas tu disais pour dans notre proche banlieue de Mars et de la Terre. Et aussi qu'il y ait du liquide. Et en l'occurrence, on pense plutôt de l'eau majoritairement pour voir apparaître la vie.
Tout à fait.
Mais ça suffit, et là d'un seul coup, pouf, il y a la vie.
Non, ça ne suffit pas, bien entendu. Alors Mars a connu un départ tout à fait comparable à celui de la Terre. Mars à 223 millions de kilomètres du Soleil, en moyenne, démarre comme la Terre a démarré, guerre de différence. Donc une bonne activité volcanique qui a créé l'atmosphère et de l'eau liquide qui a coulé à la surface de Mars, à sa formation. Mais Mars a perdu une grande partie de son atmosphère, déjà parce que la gravité est beaucoup moindre que sur la Terre. La gravité terrestre est beaucoup plus importante, 2,6 fois la gravité de Mars. L'atmosphère s'est échappée facilement. Et donc la pression atmosphérique diminuant, l'eau s'est évaporée dans l'espace. Mars a perdu son eau de cette façon, mais on a aujourd'hui des traces sur toute la surface martienne d'anciennes rivières, d'anciens lacs. L'eau a coulé sur Mars. La Terre, elle, qui donc, je le répète, a démarré de façon tout à fait similaire, a gardé son atmosphère. Sa gravité est plus importante. Et donc l'eau a perduré, elle ne s'est pas échappée. On connaît la suite.
C'est ça que... Je reprends un peu ce qu'on a... Mais c'est ça qu'on appelle donc un environnement stable, en fait. C'est quelque chose qui... Un fonctionnement qui se... Enfin, je ne sais pas comment dire, qui se maîtrise, mais ce n'est pas ça, mais...
Qui s'équilibre.
Qui s'équilibre, merci. Qui s'équilibre. C'est donc ça, en fait.
Mm-hmm. Qui s'équilibre. Alors, il faut savoir que sur Mars, on cherche encore des traces de vie passée. Il n'y a plus de vie de nos jours, on en est quasi certain, quasi. Mais on voudrait chercher des traces d'une éventuelle vie primitive au moment de sa formation. C'est un des grands challenges.
Parce que tu parlais aussi de temps tout à l'heure, et tu disais la Terre, il a fallu 4 milliards d'années pour que la vie apparaisse.
Le facteur temps, oui. Ouais. Très très important le facteur.
Donc ça veut dire qu'il faut une planète stable, pas trop loin de son Soleil, sur lequel il y a du liquide, de l'eau, on va dire en l'occurrence, et en même temps du temps. C'est-à-dire qu'elle ne subisse pas de grosses variations dans le temps, de je sais pas, une grosse comète qui vient la couper en deux, un truc comme ça, non.
Un environnement stable.
Voilà. Faut que ça se passe
on,
bien.
On te le redit, un environnement stable.
Non, mais le facteur temps est important aussi, du coup.
Bien sûr.
La vie n'apparaît pas en quelques dizaines d'années.
Oui, voilà. Parce que, alors, peut-être un peu à côté, mais ça veut dire que justement, il a fallu 4 milliards d'années pour que ça se stabilise, en fait, c'est ça que ça veut dire ?
Oui, enfin, la vie est née il y a 3 milliards d'années, mais elle est restée très très longtemps primitive.
Et sous l'eau, très 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 profondément dans l'eau, en fait.
Ok.
Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pour donner une vie animale, il a fallu 4 milliards d'années.
C'est beau l'évolution.
Oui, absolument. Alors, je disais donc que la Terre possédait cet environnement stable. On cherche aussi du côté des satellites, des planètes du système solaire. Parce que bon, certains sont énormes, on l'a vu tout à l'heure. Et la meilleure chance, pense-t-on en tout cas, actuellement, c'est le satellite de Saturne, Titan. Il y a des liquides, il y a des mers d'hydrocarbures à la surface de Titan, une atmosphère de méthane et d'azote. Une vie primitive pourrait s'y être développée, ou pas. Donc il faudrait être capable d'aller voir, on n'a pas encore vu de façon très précise. Ça coûte beaucoup d'argent, je suppose que c'est pour ça, parce qu'on a les moyens techniques de le faire, de nos jours. Mais... Imaginez, on trouve la vie ailleurs dans le système solaire. Ça serait retentissant, ça. Ça serait formidable.
Il y a quelques livres sacrés qui prendraient une claque, par exemple. Mais rien que ça, c'est...
Je vois pas de quoi tu veux pas.
Et encore, il faudrait une raison.
Oui, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que, tu le dis un peu en filigrane de ce que tu disais là, c'est que la vie, ça n'apparaît pas forcément dans un environnement super cool. Ça peut être aussi un environnement où il fait très chaud, où il peut y avoir de l'activité volcanique. C'est d'ailleurs le cas de l'apparition de la vie sur Terre, parce qu'elle est apparue près des grandes cheminées qui étaient sous l'eau. Et en fait, il faut pas forcément que ce soit comme nous à 20 degrés pour qu'on se sente bien et tout. Voilà quoi. Ça, c'est l'être humain.
Certaines bactéries vivent par 300 degrés dans les géants sous-marins.
Voilà, tout à fait. Donc
ça se porte très bien.
Quand on dit stable, ça veut pas forcément dire la notion de stabilité.
C'est pour l'évolution.
Voilà, c'est ça. C'est pas stable, 20 degrés, tout va bien, la mer est calme. Et ça veut juste dire que c'est à peu près bien.
Oui, on se dit Vénus 400 degrés. Ça fait peut-être un peu beaucoup 400 degrés. Mais enfin, par rapport aux 250 à 300 degrés qui conviennent bien à certaines bactéries. Sauf que l'atmosphère de Vénus, hein, composée en grande partie de gaz carbonique,
marche pas.
À des nuages d'acide sulfurique qui tombent sans arrêt sur le sol, c'est pas terrible à 400 degrés hein, pour la vie. Bon, un environnement qui est totalement invivable, totalement.
Oui, mais c'est invivable pour nous, mais il n'y aurait pas une vie qui pourrait supporter ça, justement ?
À ces températures-là, avec ces substances-là, acide sulfurique...
Tu dissous tout.
Oui.
400 degrés, si tu le fais, tu dissous tout. Mais tout, hein. Donc,
la moindre petite molécule qui aurait bien envie, elle, de se complexifier en accrochant d'autres molécules, serait immédiatement détruite par ces conditions.
Ok. Intéressant.
Donc, Titan, tu disais.
Titan, oui. Moi, j'aimerais bien qu'on aille voir, quand même. Ça me ferait...
Ça te ferait plaisir.
Ça me ferait plaisir.
Bah écoute, on va écrire à...
J'ai rien de prévu pour le week-end prochain, donc on peut y aller.
Donc voilà, rapidement pour le système solaire. Et ailleurs. Et ailleurs. Alors en 1995, coup de théâtre, on découvre la première exoplanète. Qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète ? C'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Waouh. 1995, c'est pas si vieux, autour de l'étoile 51 Pégase, à 40 années-lumière de nous. C'est pas si loin que ça. Bon, 40 années-lumière quand même.
Et pourquoi 51 Pégase ?
Ah, dans les constellations que l'on connaît, la plus brillante étoile de la constellation a le numéro 1, et etc.
Donc c'est la 51e moins brillante.
Voilà, exactement. Tu as tout compris. Alors, ça c'était en 95. À ce jour, on a découvert 3727 exoplanètes. 3727. Il faut quasiment remettre à jour ce chiffre toutes les semaines ou tous les mois parce qu'on en découvre encore hein, sans arrêt.
Et c'est l'amélioration en fait, des instruments de mesure dont tu parlais dans une émission il n'y a pas très longtemps qui permet d'en voir de plus en plus.
Oui, en plus. En plus du fait, plus le temps s'écoule et plus on a du temps d'observation. Hein. Donc plus on en découvre. Et aussi l'amélioration des instruments. Tout à fait, tout à fait. Et sur ces 3727 planètes, 188 ont une taille raisonnable. Qu'est-ce que j'appelle une taille raisonnable ? Pas plus de 8 fois la taille de la Terre.
C'est raisonnable.
Pour beaucoup d'entre elles, ce sont des grosses géantes gazeuses, style Jupiter en plus gros. On n'imagine pas que la vie puisse se développer à la surface de telles exoplanètes, mais ces exoplanètes ont probablement elles aussi des satellites.
Oui, en fait, tout ça multiplie les possibilités, en fait. C'est ça que tu...
Absolument. Okay. Des satellites qui, elles, pourraient servir de support à la vie, à l'apparition de la vie. Pourquoi pas ?
Et d'ailleurs, est-ce qu'on est capable de savoir de quoi est constituée une exoplanète ?
C'est encore très difficile à l'heure actuelle. Hein. On a une petite idée de l'atmosphère par spectrographie. Mais c'est tellement loin, avec tellement peu de lumière. En plus, la planète, elle n'émet pas de lumière, elle est éclairée par son étoile. Et à une telle distance, elle est dans le feu de son étoile. Elle est quasiment collée à l'étoile. Et pouvoir la voir séparément de son étoile, c'est extrêmement difficile.
Donc, ouais. Mais du coup, tu disais par spectrométrie, c'est la coloration en fait. Mmh. On arrive à voir. Mais la planète bleue, par exemple, vous voyez, c'est le truc bête.
Mais... Oui, mais je crois qu'on avait parlé dans une émission.
Oui, on avait parlé de la détection aussi d'exoplanètes. Hein, donc on va pas.
Mais par contre, je dis ça parce qu'il est important de dire aux gens, quand on vous met une photo d'exoplanète à la une des journaux et qu'on vous dit ça ressemble à ça, en fait, on n'en sait fichtrement rien.
Hein. Ah, mais tout à fait.
C'est juste un artiste qui s'est dit tiens, c'est joli, ça doit être à peu près comme ça.
Tout à fait, tout à fait. Toutes ces planètes ont été découvertes jusqu'à présent à moins de 400 années-lumière de nous. Parce que, tout simplement, pour aller plus loin, il faut des moyens techniques plus importants qu'on n'a pas de nos jours. 400 années-lumière, il faut se rendre compte que c'est rien encore dans notre galaxie. C'est un volume absolument minuscule, une petite partie minuscule de notre galaxie, 400 années-lumière. Je rappelle que la galaxie fait 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Donc 400. Oui, je m'étais amusé au calcul. C'est 0,06 millième du volume total de la galaxie. C'est 400 années de lumière.
C'est rien, quoi.
Et comparé à l'univers, c'est encore...
Et comparé à l'univers, la galaxie, c'est rien.
C'est ça. Donc on peut remonter jusqu'à combien d'années lumière, finalement, jusqu'à... C'est une notion assez abstraite, finalement.
Loin dans l'univers ?
Oui.
Actuellement, on est à un peu plus de 12 milliards d'années-lumière. 13 même, 13,6.
Presque au Big Bang, quoi.
Ouais, tout à fait. Milliards d'années-lumière. Je rappelle ce qu'est la lumière, très rapidement. C'est la distance que la lumière est capable de parcourir en un an. 300 000 km par seconde, 7 fois le tour de la Terre à la seconde, pendant un an de voyage. Voilà ce qu'est l'année-lumière. C'est donc 10 000 milliards de kilomètres en unité qu'on connaît mieux.
C'est impossible de visualiser ça, Cam.
10 000 milliards de kilomètres, voilà l'année-lumière.
Mais tu peux essayer, hein, il a essayé, Jean-Yves. En direct,
ça fait dit. Ça.
Les gens ne te voient pas, Elka. Ils ne voient pas que tu fais des bras écartés. Mais donc.
Comme les enfants, j'essaie de comprendre.
Mais ce qui est important quand même, c'est que tu donnais tout à l'heure un chiffre de 800 000 milliards d'objets potentiels et tout. Mais en fait, on se rend compte que, d'abord, on ne les verra jamais tous.
800 000 milliards de milliards.
Ah oui, 800 000 milliards de milliards, je reviens à milliards.
Une bagatelle.
On n'est plus à ça près. Mais donc, du coup, déjà, on ne les verra jamais tous, mais rien que dans le peu d'objets qu'on a déjà vus, là, tu disais 3727. Exoplanètes repérées, on ne sait pas si elles ont des satellites.
Bien sûr.
Donc ça veut dire qu'il y a les probabilités sont exponentielles à chaque fois. Enfin, elles se démultiplient à une vitesse folle, quoi.
Et absolument.
Donc, et encore une fois, on le redit, penser qu'il n'y a que sur Terre qu'il y a de la vie, ça perd tout sens, quoi.
La mécanique céleste, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison que ces planètes n'aient pas elles aussi des satellites. On voit bien ce qui se passe dans le système solaire. Pourquoi ça serait différent?
Donc tu veux dire qu'Avatar avait raison.
Alors justement, tiens, Avatar. Avatar. En août 2016, l'ESO, l'Observatoire européen austral, a détecté une exoplanète autour de l'étoile la plus proche du Soleil. Ça fait un grand scoop aussi, autour de Proxima du Centaure. On a détecté une planète tournant autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche. Le rapport avec Avatar, c'est que... Plusieurs années avant, c'est Proxima du Centaure et une planète tournant autour que James Cameron a mis en scène dans Avatar.
D'accord.
Pour sa peuplade. En fait, c'est un satellite d'une planète géante tournant autour de Proxima du Centaure, à 4,26 années de lumière. Donc, 42 600 milliards de kilomètres. Je vois que tu me regardes.
J'écoute.
Mais c'est bien. Alors, ça prouve que James Cameron adore l'astronomie, a priori, parce qu'il avait quand même des idées qui collent avec ce qui est faisable. Mm-hmm. Mais surtout, ça montre que, on a quand même une capacité à imaginer ce que ça pourrait être dans un film, en disant ça pourrait être différent, avec des êtres différents de nous, mais une forme de vie qui est pas nous, quoi.
Ouais. Voilà. Et la particularité de cette planète, qui a mis en émoi le monde astronomique, c'est qu'elle est située dans la zone habitable autour de sa planète. Je m'explique, Proxima du Centaure, c'est une naine rouge, une petite étoile, vraiment faible. Sa lumière, c'est 0,17% de la lumière du Soleil. C'est vraiment une petite étoile. Sauf que cette planète, elle est très proche de son étoile.
Oui, parce que du coup, ça veut dire qu'elle est beaucoup moins chaude beaucoup moins lumineuse, et donc il faut se rapprocher encore plus.
Absolument.
Pour être dans la bonne zone. Quoi.
Elle est donc dans la bonne zone. Cette planète, elle est à 8 millions de kilomètres de son Soleil seulement. Je rappelle que la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil en moyenne. Cette planète est à 8 millions de kilomètres, mais dans la zone habitable. Alors ?
Peut-être.
Peut-être. Pourquoi pas ?
Et si on laissait les gens rêver un peu ?
Et on se retrouve après un peu de musique ? Et vous êtes toujours à l'écoute de la causerie sur Radio Canu, sur le 102.2 de la bande FM et sur radiocanu.org, partout ailleurs. On est toujours dans une causerie astronomique et on vient de s'écouter Dunkirk de Hans Zimmer, pardon.
Pour le film Dunkirk.
Voilà, c'est ça. Et alors, on est avec Georges et on parle de l'exovie, de la vie qui pourrait...
Il aime beaucoup ce terme. Hein.
Ouais, okay. Oui, mais parce que tu vois, ça me donne un peu un standing, tu vois. Genre exo-vie, tu vois. Waouh. Ça fait pas une discussion quand même. Pardon. Et donc, Georges, là, c'est cool, on parle de bactéries, de choses qui peuvent se complexifier, mais tu nous as pas parlé d'un truc qui est quand même...
Arrivé.
Arrivé, évidemment. Roswell, les ovnis.
L'idée d'une vie intelligente ailleurs. Les ovnis, alors on va en parler très rapidement. Je vais faire une émission sur les ovnis. Ce que j'en pense moi, hein. J'engage personne. Ce que j'en pense moi. Ben, moi je ne crois pas qu'ils soient venus nous voir un jour. Ou alors s'ils sont venus, mais ils ne sont pas prêts de revenir, croyez-moi. Vous savez, il doit y avoir un panneau d'avertissement au large du système solaire. Ne vous approchez pas de ce système peuplé par des poux.
Ça doit être ça.
Non, plus sérieusement. Alors, les ovnis, effectivement, toutes ces observations, on a parfois du mal à avoir des explications, mais dans la plupart des cas, les explications sont totalement naturelles et sont facilement trouvées. Alors, déjà... Vénus est souvent pris pour un ovni parce que cette planète est extrêmement brillante dans le ciel. Hein, je vous rappelais l'anecdote pendant la guerre de toute cette escadrille qui a poursuivi Vénus pendant plusieurs minutes sans jamais la rattraper, je vous rassure. Parce qu'effectivement, dans la haute atmosphère, Vénus est extrêmement brillante. Hein. Moi, je me souviens d'un matin à 3000 d'altitude où je regardais le jour se lever et Vénus s'était levée et j'avais l'impression d'un hélicoptère et son projecteur braqué vers moi, qui s'approchait de moi. Ça peut donner cet effet.
Donc, ça donne cet effet à 3000 mètres d'altitude par moins 20.
On n'est plus totalement maître de son corps et de son esprit. Quoi.
Après une nuit complète d'observation.
Ah ouais, effectivement. Ouais.
Et 4 bouteilles de schnapps.
Et le manque d'oxygène.
Non mais alors, tu te dis... Oh, ça va.
Ça doit être impressionnant à voir. Effectivement, une espèce d'une planète très lumineuse. Oui.
Non mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, tu parles d'une histoire vraie, d'un escadron qui est parti à la recherche, à la poursuite de Vénus. Donc on peut se dire qu'effectivement, des individus, enfin une ou deux personnes qui voient des choses, elles peuvent... facilement s'emballer dans quelque chose.
Un objet volant non identifié, Vénus en l'occurrence. Vénus, mais parfois aussi la planète Jupiter, qui peut être très brillante dans le ciel, est prise pour un ovni. Hein. Il y a parfois des gens qui appellent. Alors, récemment, je ne sais pas, mais ça, par le passé, ça s'est produit. Oui, je pense que l'information de nos jours est plus facile. Les gens sont davantage au courant. Ouais. De ce qu'on peut voir et regarder dans le ciel. Voilà pour les ovnis, j'en parlerai pas davantage.
Mais ce que je me dis aussi, c'est que finalement, c'est aussi moins on en sait et plus on est apte à pouvoir croire qu'on a vu des ovnis en fait.
Parce que
finalement, si on connaissait un petit peu notre environnement, on va dire
céleste,
on se laisserait peut-être moins facilement s'emballer comme ça, en se disant oh, « c'est sûr, c'est des ovnis, quoi ».
Oui, je peux parler aussi des météorites, hein, des météores qui, en rentrant dans l'atmosphère, peuvent être extrêmement brillants, peuvent donner la forme d'un cigare extrêmement lumineux. On a beaucoup d'observations, bizarrement, de cigares. Alors, en général, c'est très lumineux, mais c'est uniformément lumineux. Eh ben, il y a des gens qui témoignent qu'ils ont vu des hublots le long du cigare avec.
Et après, il y a ce que ton cerveau peut créer aussi.
Oui, oui.
Non, mais c'est vrai. Et tu parlais aussi des ballons sondes météo.
Ah, ça, c'est une anecdote aussi qui m'est arrivée, oui. Avec mon télescope, il y a fort longtemps. Hein. Je regardais Vénus qui se couchait. Je regardais Vénus au télescope. Et puis, il y avait un point lumineux sur la gauche de Vénus qui, lui, ne bougeait pas pendant que Vénus basculait vers l'horizon. Ça m'a intrigué parce que ça faisait plusieurs minutes que ce point était statique. Donc j'ai pointé tout naturellement mon télescope dessus. Et j'ai vu un U lumineux. Et en réalité, c'était le dessous d'un ballon météo, encore éclairé par le soleil couchant. Et dans le ciel, c'était assez impressionnant, c'était extrêmement brillant.
Oui, mais c'est là, encore une fois, je me dis, toi, t'as des connaissances, etc., sur tout ça, donc effectivement Déjà, toi, tu t'es dit, waouh, c'est quoi ce truc? Alors, je me dis, toutes les personnes qui ont pas du tout de connaissances ou très peu de connaissances sur tout ça, en fait, on peut très vite s'emballer à croire que on a vu un truc complètement...
Alors, on pourrait multiplier, oui, des anecdotes de ce genre. Mmh. Hein. Plus de 99% des observations peuvent s'expliquer naturellement, de cette façon-là. Et il est vrai, je peux pas le nier, il reste des choses inexplicables. De là à ce que ça soit des visites extraterrestres, c'est une autre histoire.
Ce qu'on a fait la prépa, on a gratté un peu. Dans les trucs inexplicables, c'est surtout souvent que les témoignages sont tellement étranges que, bah voilà, c'est dur de vérifier quelque chose qui est complètement étrange. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les gens qui disent j'ai vu un faisceau rouge vert bleu se pointer vers mon visage. Ouais, ok. C'est une boîte de nuit, sans doute, mais, enfin, voilà, mais c'est compliqué de... Alors, c'est classé comme inexplicable, mais voilà, quoi. Fin...
Mais l'idée d'une vie intelligente ailleurs, elle est relativement vieille. Hein. Ça remonte quand même au 19e siècle avec les canaux qu'on a cru voir à la surface de Mars. C'est comme ça qu'était né le mythe des Martiens. C'était un astronome italien qui s'appelait Schiaparelli, en 1877 à Milan, vous voyez. Il a parlé de canali en italien, ça veut dire lit de rivière. Et on le sait qu'il y a des lits de rivière sur Mars, hein, on en parlait en début d'émission. Mais ça a été mal traduit en anglais, ça a été traduit par canals en anglais, qui veut dire canaux. Okay. D'où des canaux rectilignes, et qui pouvaient être que fabriqués par une vie intelligente. Ça ne pouvait pas être naturel. C'est comme ça qu'a démarré le mythe des Martiens.
Il y avait déjà le mythe des Sélénites aussi.
Mmh. Des habitants de la Lune. Voilà. Alors là, vous rendez compte, on est en 1877, bien avant Roswell.
Alors, j'ai une question à deux balles, mais est-ce que pour autant... on peut complètement exclure la notion de vie intelligente ailleurs, en fait.
Bien sûr que non.
Oui, c'est ça, en fait. Après, c'est plus sur leur capacité à venir nous rendre visite, quoi. Parce que ça leur demanderait beaucoup d'énergie, en fait.
Vous vous souvenez de notre première émission où on parlait des distances, de la répartition des astres dans l'univers et des distances qui séparent, ne serait-ce que les étoiles. Pour franchir de telles distances, il faut une technologie... absolument inimaginable de nos jours. Proxima Centauri à 4,26 années de lumière, la lumière met 4 ans, mais nous, avec nos moyens techniques actuels, il nous faudrait des milliers d'années pour la rejoindre. Des milliers d'années.
Sauf pour les ondes radio de la causerie qui sont déjà arrivées là-bas.
Et ouais. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Oui, ça fait combien d'années que...
5 ans.
Ça fait 5 ans. Ça veut dire que vos émissions ont déjà parcouru 5 années-lumière. Elles ont donc effectivement atteint...
Proxima du Centauri.
Voilà.
Des nouveaux adeptes et des nouveaux auditeurs.
Bonjour à vous.
Alors, je vous dis bonjour, amis extraterrestres.
Et à dans 5 ans.
Vous recevrez mon bonjour dans plus de 4 ans.
Non, mais donc, je trouve que c'est intéressant quand même de se dire, c'est pas la notion de vie intelligente ailleurs qui serait folle ou je ne sais pas quoi. C'est plus après, effectivement, enfin, tout ce qui est... Roswell et toutes ces conneries-là qui sont des conneries, mais ça n'enlève pas la possibilité, enfin, la forte possibilité
et d'une vie intelligente. Ça discrédite la vraie recherche.
Oui,
hein, oui, c'est ça. Ouais.
De vie intelligente ailleurs. Mmh. Alors, effectivement, une vie intelligente ailleurs, il faudrait qu'elle communique pour qu'on puisse les détecter, puisqu'ils ne peuvent pas venir nous voir. Il faudrait qu'ils communiquent. Il y a un astronome américain, Carl Sagan, qui a fait une tentative d'extrapolation du nombre de civilisations, par exemple, intelligentes qui pourraient exister dans notre galaxie. La plupart des astrophysiciens croient en une vie intelligente ailleurs. Nous tous, c'est de pouvoir communiquer. Alors, les tentatives de communication... je rappelle que la radio, la première émission de radio, c'était 1866. Ça fait 152 ans, donc cette émission a déjà parcouru 152 années-lumière. Et je vous rappelle que les ondes électromagnétiques ne sont pas altérées par le vide. Elles voyagent à la vitesse de la lumière, donc cette émission est arrivée là-bas, à 152 années-lumière. C'est une certitude. En 1920, la radio se développe. Ça fait 100 ans, hein, environ. Hein. Et on a émis l'idée d'écouter, du coup, l'espace et d'écouter d'éventuels messages, une éventuelle communication extraterrestre. Ça ne rigolait pas, c'est un programme très sérieux. Qui est né en 1959, c'est le projet SETI. SETI, ça veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence. Je ne sais pas si je l'ai bien fait en anglais.
Si, si, mais ça s'entend bien que tu es traducteur officiel du Royaume-Uni.
Donc un radiotélescope, parce que c'est en radio, hein, en 1959. Aujourd'hui, il y en a une multitude, dont le plus grand à l'heure actuelle est à Porto Rico. Il fait 300 mètres de diamètre à Recibo. Voilà, il est utilisé pour le programme SETI, qui de nos jours n'a encore rien donné.
Alors rien en termes d'intelligence extraterrestre, par contre, ça permet quand même de voir, comme tu le rappelais dans d'autres émissions, des phénomènes qu'on a pu détecter ou affiner avec ça. Genre les pulsars, des trucs comme ça, des choses dont tu parlais.
Tout à fait, oui. Tout à fait. On a détecté des tas de choses grâce à ces télescopes, à ces radiotélescopes. Le programme SETI, c'était sous l'investigation du... C'était Drake, Frank Drake, qui est le premier à émis cette idée. C'était un astronome américain, né en 1930. Il est encore en vie, hein, Frank Drake. Il a 88 ans de nos jours. Et Frank Drake, il a voulu estimer à peu près quel pouvait être le nombre de civilisations intelligentes présentes dans la galaxie. Je ne vous explique pas le projet. Ça, c'était en 1961. Et il nous a donné une formule, la formule de Drake, qui est très célèbre. Je vais vous en donner les termes. C'est qu'une suite de facteurs. C'est N, c'est le résultat. C'est le nombre de civilisations pouvant communiquer dans notre galaxie. N, c'est le résultat de sa formule. C'est égal à toute une suite de facteurs. R étoile, c'est le nombre d'étoiles de type solaire qui se forment par an dans la galaxie. FP, c'est la fraction d'étoiles avec planètes. NE, c'est le nombre de planètes situées en zone habitable autour de leur étoile. À chaque fois, ce sont des extrapolations et
des suppositions.
Des hypothèses, des suppositions. Hein. Donc faire une formule avec ça, bravo, hein, il n'avait pas peur. FL, c'est le nombre de planètes avec une vie qui est apparue à leur surface. Ça ne suffit encore pas pour faire une vie intelligente, mais déjà, il faut qu'une vie soit apparue. FI, c'est la fréquence de l'émergence de l'intelligence parmi ces vies. FC, c'est la probabilité d'accès à la communication de ces civilisations. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une civilisation intelligente. Hein. Il y a deux siècles, on était tout aussi intelligent, mais la technologie n'était pas la même et on n'était pas capable de communiquer par radio. 200 ans seulement, c'est rien du tout. Hein. Et elle, c'est la durée durant laquelle ces communications sont détectables. Donc N égale R étoile fois FP fois NE fois FL fois FI fois FC fois L. Sacrée formule.
J'ai pas tout retenu.
Non, mais c'est drôle de se dire qu'on a essayé de modéliser une possibilité de se dire tiens, il y a un nombre donné de vie possible et intelligente. Il allait trop vite, Georges, il n'ose pas le dire.
Oui, c'est ça, je suis allé trop vite.
Bah, tu sais quoi, attends, on va faire une petite pause musicale voilà. Et puis on revient après.
J'avais une petite question.
Ah, vas-y.
Du coup.
Voilà, vas-y.
Mais par exemple, nous, on a mis 4 milliards d'années à peu près pour avoir une vie intelligente sur la planète Terre. C'est ça, si j'ai bien compris le début de l'émission. Sur d'autres planètes, donc on est sûr qu'il peut y avoir de la vie. Peut-être qu'elle a évolué, elle, en 3 milliards d'années. Et ça se trouve, ils sont peut-être venus nous rendre visite à ce moment-là, on n'était pas encore là.
Oui, supposons qu'ils soient passés au moment des dinosaures.
Oui.
Ils ont noté, c'était très intéressant.
Et puis ils sont repartis finalement.
Pas de possibilité de communication, ils sont repartis.
D'accord. Ouais. Intéressant de savoir ça. On a loupé le coche.
Ils repasseront peut-être. Ma foi. On fait une petite pause musicale.
Vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. On vient de s'écouter Maroon, je sais pas comment ça se prononce, de Pink Floyd. Et c'est bien sûr parce que c'est une causerie astronomique avec Georges ce soir. Et d'ailleurs, merci pour ce voyage dans la vie possible ailleurs. Mais tu as cité un auteur pendant ce petit voyage qui est Carl Sagan, ou Sagan, selon comment on le prononce. Et du coup, il a écrit des livres, dont un qui, toi, t'as beaucoup marqué et dont tu voulais parler un petit peu.
The Cosmic Connection. Hein, c'est une tentative d'extrapolation et une tentative de déterminer de quelle façon une civilisation ou différents types de civilisations pourraient évoluer vers une forme technologique et quelle technologie. Il a écrit ce bouquin en 1978, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais. Carl Sagan, qui malheureusement n'est plus de ce monde, hein, il nous a quittés en 1996. Carl Sagan, ça dit quelque chose sans doute à certains amateurs de cinéma, hein, parce que il avait écrit le livre Contact, qui a donné un film en 1997 avec Jodie Foster. Certains d'entre vous l'ont vu.
Mais préférez le livre, moi je le dis à chaque fois. Le livre est mieux.
Oui, je suis un peu d'accord aussi. Il a fait une série d'émissions à la télévision, hein, qui s'appelait Cosmos, qui a donné un livre également. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était formidable, Cosmos. Donc Carl Sagan, lui, il a essayé d'interpréter la formule de Drake et de voir ce que ça pourrait donner de façon plus raisonnable, parce que la formule de Drake, vous l'avez compris, elle peut donner des résultats considérablement variables suivant le sentiment de chacun. Ainsi, chacun des facteurs, ça dépend de son sentiment, au final, multiplié par tout ça, ça peut donner quelques dizaines de civilisations intelligentes ou plusieurs millions,
ouais, c'est ça.
Suivant les gens. Alors, pour Carl Sagan, lui, il a été un peu plus raisonnable quand même, hein, parce que pour lui, il y aurait un million quand même de civilisations dans la galaxie, hein, uniquement dans notre galaxie, cette formule. Un million. De nos jours, on est encore plus raisonnable, on serait entre 100 et 10 000 civilisations.
Dans notre galaxie.
Dans notre galaxie, toujours. Je rappelle que on a actuellement... On estime 200 milliards de galaxies, l'univers, entre 200 et 2000 milliards de galaxies.
Vous voyez.
Oui, ça peut faire du monde. Mm-hmm. Alors, qu'un jour on puisse détecter un signal extraterrestre, à plusieurs reprises on a cru. Pendant la prépa, tu avais rappelé l'histoire des pulsars, parce que ce sont des étoiles à neutrons, hein, qui tournent très très vite sur elles-mêmes, qui émettent un faisceau. Si on est dans la direction, on a l'impression d'un phare avec des impulsions totalement régulières. Et au départ, on a pensé que ça ne pouvait pas être naturel. Avec une telle régularité, ça serait peut-être extraterrestre. Bon, on a vite compris ce qu'étaient les pulsars. Donc, perdu.
Raté.
Mais un jour, peut-être. Peut-être.
Et ben
qui
voilà.
Sait.
Peut-être qu'un jour, ils viendront à la causerie.
C'est ce que j'allais dire. En fait, on peut peut-être repasser un message pour dire « Salut les loulous, nous on est là. » Enfin bon, voilà quoi.
Si tu sais pas quoi faire, passe.
Donc moi, je vous conseille Cosmic Connection. Et puis je vous conseille de lire aussi Contact.
Oui.
Contact, le film, ok, mais lisez plutôt le livre.
Bah, surtout que le livre, par rapport au film, apporte aussi un truc sympa, c'est qu'il y a de la vulgarisation scientifique et que justement les distances, ces notions-là, sont super bien expliquées à travers un roman. Donc c'est vachement cool. C'est-à-dire, vous suivez, y a de l'action, il y a tout ce que vous voulez, et en plus, vous apprenez des trucs sympas. Donc voilà. Merci Georges, en tout cas. Mais moi, je voulais juste te dire qu'on avait ouvert avec Star Wars, donc le thème principal de Star Wars par John Williams, et que ça commence dans Star Wars par dans une très lointaine galaxie. Sous-entendu, c'est pas chez nous, mais c'est loin, quelque part, qu'il se passe ça. Bah, finalement, c'est peut-être vrai.
Waouh.
Voilà. C'est cool, non?
Et je voulais juste rappeler aussi vite fait que les livres, etc., enfin les infos que Georges a pu donner, on les mettra aussi sur le blog pour que ça puisse vous servir sur le long terme et pas juste à une écoute.
Tout à fait.
Voilà. Georges, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter ou pas, ou est-ce...
Camoulox.
Je rappelle aux gens qu'on peut venir nous voir au club le mercredi soir à Chaponnet.
Redonne l'adresse.
Donc c'est situé à la maison des associations de Chaponnet. C'est derrière la grande salle toute récente dont j'ai oublié le nom.
Enfin, une grande
mais
salle.
c'est près des installations sportives, tennis, foot, etc. À Chaponnet. Le mercredi soir, à partir de 20h30, quand le temps le permet, on a toujours des télescopes dehors. On vous montrerai volontiers ce qu'on peut voir avec un télescope.
Et nous, on va le dire, amis du club d'astro, si tu as envie de venir ici aussi parler de ton club d'astro, expliquer ce que c'est qu'un club d'astro. Mais viens.
Et du rapport que tu as avec l'astro, parce que j'ai l'impression qu'en fait, chacun, chacune... Vous ne cherchez pas forcément à regarder les mêmes choses, etc. Et que c'est. Je pense que ça pourrait être très intéressant, effectivement.
Oui, surtout qu'on a beaucoup, depuis quelques temps, beaucoup d'astrophotographes au club qui font des images merveilleuses. Il faut voir.
Viens dire il y aura du goûter.
L'appel est lancé. Eh bien, avant de fermer cette...
De vous quitter quand même.
Oui, de vous quitter. Effectivement, on voulait vous donner rendez-vous la semaine prochaine. On recevra à nouveau l'association GAMS. On l'avait déjà reçue, je ne sais plus exactement quand c'était, mais c'est une association qui lutte contre les mutilations sexuelles féminines, excisions et bien d'autres horreurs.
C'était le 30 avril 2017.
Merci. Et cette fois-ci, c'est un peu pour une raison un peu particulière, qu'elles reviennent. C'est pour nous parler du livre Les fleurs coupées. C'est un livre en fait qui est constitué des témoignages en fait issus des groupes de parole organisés par GAMS. Et nous aurons la chance d'avoir une personne qui viendra témoigner effectivement de sa propre expérience. Donc rendez-vous est donné la semaine prochaine, comme tous les dimanches de 22h à 23h avec l'association GAMS. On espère que vous serez nombreuses et nombreux au rendez-vous.
Oui, parce qu'eux, ils seront nombreux. Enfin, elles seront nombreuses et nombreux.
Oui.
C'est ça qui est bien.
Effectivement. Donc voilà, rendez-vous. Merci encore, Georges, pour ce nouveau volet astronomique.
Ce fut un plaisir.
Et on se donne rendez-vous dans quelques mois.
Pour la saison suivante.
Oui, mais ça va être beaucoup plus vite du coup.
Bah oui.
Parce que mars est bientôt là.
Oui, bah,
le mois.
Ce truc va nous la faire au mois d'avril. Il dira oh, ça va, c'est presque mars. On va arrêter de le taquiner.
Comment ils sont?
Il y a un titre final et c'est quoi, Clara, le titre final?
Et pourquoi moi?
Parce que c'est ton choix.
Oh ouais, qu'est-ce que tu veux dire?
Voilà, on se quitte avec Lionheart de Emancipator.
Et on remercie aussi Elodie, MK, Georges encore une fois, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Des bisous.
Des bisous.
Bisous, bonne soirée.
Ciao.
Ciao.